ne t'oublierai jamais. Je sais que la nuit passe et tout change. Parfois je suis perdu dans ma peau. Je veux garder ton visage heureux dans ta robe d'été. Puis tu m'emmerdes, allongé dans l'herbe. Je ne sais plus où l'on va.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc, l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard, sa vision sur le monde, à travers différents parcours de vie, différentes expériences d'écrivains, de voyageurs, toute personne que je peux rencontrer sur mon chemin. Avec nous dans cette émission aujourd'hui, Agnès Charron. L'idée, c'est qu'on prenne le temps de découvrir un petit peu ton itinéraire de vie, parce que je sais que non seulement tu as beaucoup voyagé, mais tu t'es aussi rapidement impliqué sur la cause tibétaine dont on parlera dans cette émission. Donc, on va revenir un peu à l'origine, à toi, il y a longtemps. Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à ce qui se passe au-delà de nos frontières et à quel moment le voyage est entré dans ta vie ?
Quand on était jeune marié, qu'on n'avait pas encore d'enfants, ou non, c'est à partir du moment où on a eu des enfants, on a eu envie aussi d'aider des enfants des autres continents. Alors, mon rêve, un peu, c'était d'aider des enfants de tous les continents. Un enfant dans chaque continent. Parce que c'était normal. Moi, j'étais vraiment très consciente de la chance qu'on avait de vivre dans ce pays. Nous, on n'a jamais été très argentés. On avait des métiers qui n'étaient pas bien payés. Mais quand même, pour moi, pour nous, c'était important. De partager notre richesse avec d'autres enfants pour que cela puisse aussi avoir et une éducation et un bien-être. Voilà.
Et... On pourra parler du parrainage un peu plus tard, mais c'est vrai, tu dis, on avait cette conscience. Comment ça se fait que tu avais ça? D'où vient cette sensibilité? Pourquoi tu avais, bah, très vite, très jeune, eu envie de soutenir d'autres enfants dans tous les continents? Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient, ce goût de l'autre, ce goût de l'humain?
Ah bon, j'en sais rien. Enfin, ça me semblait évident. Ça me... Bon, c'est peut-être la conscience de vivre dans un pays riche. Enfin bon, dès qu'on se tourne vers ce qui se passe ailleurs, l'Afrique, l'Amérique du Sud, quand on est conscient de ce que peuvent vivre d'autres peuples, on se dit qu'on est aussi redevable, enfin, d'une certaine manière. Et d'où mon engagement pour le Tibet. Moi, j'ai des parents qui ont vécu la guerre, mon père en tant que incorporé de force, ma mère en tant que réfugiée dans le sud-est de la France, et j'ai entendu parler de leurs histoires pendant toute mon enfance, et donc il faut être bien conscient que s'il n'y avait pas eu les Africains comme alliés, s'il n'y avait pas eu tous ces pays qui étaient alliés, qui nous ont permis de vivre en paix, on n'en serait peut-être pas là. Enfin, je ne sais pas où on en serait, mais bon, c'est sûr que le nazisme se serait peut-être arrêté, forcément, tôt ou tard. Mais d'une certaine manière, je me sens redevable et envers ces gens qui nous ont libérés, et la manière de l'exprimer, c'est aussi de venir, d'aider. Bon, je ne sais pas si ça sert à grand-chose ce qu'on fait, mais d'avoir un regard sur les peuples opprimés.
C'est incroyable parce que ce n'est pas tellement le courant, le mainstream. On est souvent très tourné vers son nombril, en fait, hein, dans une société très individualiste où on nous parle de développement économique et matériel. Et c'est vrai que c'est bien de se rappeler que si la France a pu atteindre ce niveau de développement économique, c'est parce qu'il s'est allègrement servi dans d'autres pays, hein, soit en ressources minières, en ressources naturelles ou aussi en ressources humaines. Donc tu parlais de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a eu pendant plusieurs décennies un pillage de l'Afrique pour pouvoir se développer économiquement. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on n'est pas dépendant ou indépendant, mais qu'on est tous interdépendants les uns des autres, et que souvent les richesses acquises dans une nation ou dans une autre proviennent aussi d'autres pays.
Oui, c'est exactement ça, hein. Et puis il y a toutes les ressources, les richesses, mais il y a aussi le fait d'avoir... je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais... De demander à ces jeunes Sénégalais, à ces jeunes Marocains, Algériens, Tunisiens de venir en France pour libérer, justement pour la libérer. C'est juste incroyable. En haut de notre village, il y a donc ce cimetière militaire. C'est peut-être ça qui m'a fait prendre conscience de ce fait. Il y a un cimetière militaire, donc, où sont enterrés de très nombreux Nord-Africains. Et je pense que de le découvrir très rapidement, de voir ces tombes musulmanes, je me suis posé des questions. Et
donc cet engagement, tu peux me dire à quel moment tu as fait ton premier parrainage, ou à quel moment ou sous quelle forme s'est concrétisée cette envie d'aider?
Oui, c'était le parrainage. Ça ne s'est pas passé comme on voulait les enfants dans chaque continent, mais j'avais lu un article dans le journal justement qui parlait de l'association Solimal, qui était encore Tibet Libre à l'époque, et ça se... il y avait une exposition à Strasbourg, donc j'ai pu rencontrer les responsables de cette association, et puis voilà, c'était parti, je crois que c'était en 99. Donc on a commencé un parrainage d'une enfant tibétaine qui était réfugiée à Katmandou.
Et à ce moment-là, tu avais déjà un parcours de voyageuse, ou c'est après que tu t'es mis à voyager et partir au Népal faire du trek?
Ah non, pas du... j'avais jamais voyagé d'ailleurs. Et puis donc je me suis pas mal impliquée dans cette association qui est devenu, après Tibet Libre, Solidarité au peuple himalayen. Puis c'est là que j'ai rencontré des tas de gens qui me disaient « Ouais, j'étais au Népal, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh, » Je me suis dit non, moi je pourrais jamais aller au Népal avec les revenus qu'on a, c'est juste impossible. » Et puis, quelques années après, je me suis dit « Bon, j'irai au Népal. » On ira au Népal. Et mon idée, c'était d'y aller en famille, voilà, faire un chantier solidaire, comme les organisait Solimal il y a quelques années. Et puis le temps de rassembler l'argent nécessaire, les enfants ont grandi et ont dit non, on n'ira pas avec vous. Et puis mon mari a dit non, vas-y toute seule. Et puis du coup j'ai pu j'ai eu de la chance, parce qu'à partir du moment où j'ai décidé j'irai au Népal, j'ai eu des occasions de gagner plus d'argent, et c'était assez marrant, ouais, parce que ça allait très vite, et de pouvoir rassembler l'argent nécessaire pour faire un premier voyage, donc en 2006, un chantier avec Solimal.
C'est intéressant, parce que ce que j'entends de ton parcours, c'est souvent l'inverse. On part en voyage et on se sent touché par ce qu'on voit, par cette misère, et c'est là qu'on se rend compte des privilèges qu'on peut avoir en tant que Français en étant sur les routes du monde. Et souvent, en retour, touché de ces expériences très humaines, on va se mettre à avoir envie d'aider l'autre et d'avoir envie de parrainer des enfants parce qu'on a vécu cette expérience, on l'a vu. Et toi, c'est vraiment le cheminement inverse. Tu t'es intéressé d'abord à l'autre, ici en France, tu as parrainé des enfants. Et c'est à travers cette association que tu t'es ouvert sur le Népal et que tu as fait ton premier voyage.
Voilà, c'est ça, oui. Pour moi, il n'était pas question d'aller au Népal faire un voyage touristique. C'était hors de question. Donc, j'ai commencé par faire un chantier solidaire. Et donc, on a fait ce chantier dans le sud-est de Katmandou.
Alors c'est bien de le rappeler aussi, parce qu'effectivement dans le voyage, il y a différentes manières de voyager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on critique de plus en plus le tourisme de masse, mais c'est vrai qu'on peut partir de différentes manières, comme toi tu as fait ce choix d'aller faire un chantier. Donc il y a plein d'associations et d'ONG qui proposent ça, d'aller s'impliquer sur des missions en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et apporter une compétence. C'est aussi une manière de voyager, mais surtout c'est une manière d'être en lien avec les locaux et de sortir de ce flux touristique, d'aller d'hôtel en hôtel, de restaurant en restaurant, et vraiment de prendre ce temps de la rencontre, parce que je crois que ce qui marque le plus finalement, en tout cas là je parle pour moi, dans les voyages, c'est les rencontres qu'on peut faire.
Oui, bien sûr, ce sont les rencontres, oui. Bon, s'arrêter à un moment, et puis de pouvoir discuter avec les gens. Et puis donc, après ce premier chantier, je m'étais dit... Ouais, bon, allez, moi j'ai 50 ans passés, je vais laisser la place aux jeunes. Donc je me suis rendu compte que je n'étais pas... de faire un trek, parce que j'adore la montagne, et c'est en fait parce que j'adore la montagne que j'ai eu connaissance de ce qui se passe au Tibet, parce qu'on fait des lectures de ce qui se passe autour de nous, dans les Alpes et Pyrénées, et ensuite en Himalaya. J'avais fait un trek de 2 jours parce que j'étais allée jusqu'à Pokhara avec une amie qui parrainait une enfant qui habitait dans un camp de réfugiés tibétains. Et donc là, on a rencontré le grand frère de cette jeune fille, et qui nous a emmenés pendant 2 jours en trek au-dessus de Pokhara. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, on a fait un repas, et ça m'a beaucoup touchée, ça. On a fait un repas chez des gens qui n'avaient pas un lodge. On leur a simplement demandé si on pouvait manger. Et puis on voyait la dame qui était allée chercher des orties au bord du chemin pour agrémenter le dalbat. Et je me suis dit, finalement, faire un trek, on n'est pas inutile. On permet aux gens de vivre. Et ce jour-là, cette personne, elle a gagné... un peu d'argent pour pouvoir continuer à ne pas être dans la survie tous les jours.
Oui, c'est ça aussi l'intérêt du voyage solidaire. Il y a plein d'associations qui proposent de partir, donc pour encore une fois voyager aujourd'hui. Enfin, je pense le mouvement fait partie du rêve de l'humanité. De tout temps, l'homme a eu besoin d'aller voir ce qui se passait dans le village d'à côté, dans la ville d'à côté, traverser les vallées, les montagnes. On est à la base semi-nomade. Avant d'être sédentaire, l'homme a toujours été dans cette notion du mouvement. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on a encore en nous cette envie d'aller explorer ce monde, voir ce qui s'y passe. Et on connaît aujourd'hui les répercussions du tourisme qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les populations, les écosystèmes, mais s'arrêter complètement de voyager, je pense que c'est un mythe et c'est pas possible. Donc il y a plein d'associations qui existent et qui proposent effectivement du tourisme solidaire, parce que le tourisme peut aussi générer une économie locale pour les populations rencontrées, comme c'est le cas dans certaines vallées himalayennes, où effectivement grâce au tourisme, où là, en traversant des vallées, non seulement ça permet aussi d'apporter une ouverture sur le monde, mais aussi d'une forme de... enfin de l'argent nécessaire aux gens. Donc on revient un peu à toi, Agnès. Donc on disait que c'est vraiment le parrainage d'enfants, enfin cette envie de soutenir, d'être soutenante pour les populations lointaines, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Peut-être tu me parlais de ce constat, de se rendre compte qu'aujourd'hui, bah, nos richesses, c'est bien de pouvoir les partager, parce qu'on a une chance. Déjà la chance d'avoir un passeport français qui nous permet d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça aussi, souvent, on oublie à quel point c'est précieux ce passeport. Et tu t'es très vite senti touché par ce que tu observais à la surface du monde, et tu as eu cette envie de soutenir, d'aider. Tu parraines un enfant via l'association Solimal, anciennement Tibet Libre, et tu te retrouves à faire des chantiers participatifs, à faire des voyages, des treks, notamment au Dolpo. Je vois bien que tu reviennes un peu sur peut-être cette magie quand on voyage et quand on va dans des vallées himalayennes comme ça, aussi reculées. Qu'est-ce qui se passe en soi? Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de trekking au Népal?
J'ai vraiment adoré tous mes treks, et il se trouve que en 2008, donc j'ai fait un voyage où je faisais quelques missions pour des associations, et j'avais beaucoup de temps donc pour faire un trek. J'ai choisi de faire le tour des Annapurna, et c'est le papa d'un autre enfant qu'on parrainait, donc un enfant d'origine tibétaine qui vivait dans un camp de réfugiés au nord de Pokhara, qui devait m'accompagner. Et au dernier moment, il m'a dit, non, finalement, je suis rappelée par mon agence, je ne peux pas, mais j'ai un ami qui a plusieurs enfants, et puis c'était le mois d'août, c'est hors saison touristique, qui serait content de pouvoir t'accompagner, parce qu'il a aussi besoin de gagner sa vie. Et bon, donc moi, j'ai accepté avec plaisir, et vraiment... J'ai eu l'impression d'avoir un ange gardien à côté de moi pendant tout ce trek, et j'ai eu la chance de pouvoir faire le tour des Annapurna, ce tour qu'on a fait pendant de longues années, qui durait presque 3 semaines. C'était juste extraordinaire, et de pouvoir partager avec lui, c'était des moments de bonheur. Et de me confronter aussi à l'altitude, ce que je ne connaissais pas encore. C'était tout simplement magique aussi, et de m'approcher de la frontière tibétaine, et de rencontrer aussi de nombreux Tibétains dès qu'on passe le col. Et surtout, pour moi, ce qui était extraordinaire, c'est en descendant vers Muktinath, de voir au loin le Mustang. Alors j'en étais émerveillée. Je me disais, mais c'est quoi ce désert ?
Qui est un royaume, je crois, il y a le roi du Mustang.
Oui, c'était un royaume. Le roi, il est décédé, mais moi j'ai eu la chance encore, lors de mon premier voyage au Mustang, de le rencontrer. Les touristes étaient invités dans son palais, sur un palais, un très vieux palais, qui ne ressemble absolument pas au palais qu'on pourrait imaginer en Inde. Et donc, il nous a reçus, il nous a offert le thé. On a pu poser quelques questions, mais pas trop quand même. Il ne fallait pas que ça touche le Tibet.
Alors le Tibet, voilà, à plusieurs reprises, tu as parlé de réfugiés tibétains. Donc tu as parlé aussi d'invasion de la Chine. Alors c'est vrai que c'est une histoire dont on parle de moins en moins malheureusement, mais en 1959, le 11 mars, le Dalai Lama doit fuir hein, le Tibet, et c'est le seul pays au monde qui a un gouvernement en exil, hein, donc aujourd'hui à Dharamsala. Et les Tibétains qu'on peut rencontrer au Népal, donc sont effectivement réfugiés, n'ont pas la nationalité népalaise, mais non pas la nationalité chinoise non plus, parce qu'ils sont tibétains, donc quelque part ils sont apatrides, ça fait partie d'un peuple qui se retrouve bloqué dans un pays qui n'est pas leur et qui ne peuvent plus retourner dans leur pays à eux, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, oui, oui. Ce sont des personnes, oui, complètement apatrides. Et d'ailleurs, il y a à peu près 100 000 réfugiés tibétains en Inde qui, eux aussi, sont apatrides, parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas envie d'avoir la nationalité indienne. C'est aussi un désir. Ils ont vécu, ils ont passé leur jeunesse dans des camps de réfugiés en Inde. Et ils ont envie de le rester aussi, parce qu'ils ont un sentiment de trahison s'ils prennent une nationalité différente. Ils ont envie de garder aussi de perpétuer cette communauté tibétaine à travers le monde. C'est un gros problème parce que maintenant, on marque sur leurs papiers qu'ils sont de nationalité chinoise. Et pour eux, c'est insupportable. Alors qu'en France, on a encore des papiers où on acceptait qu'il soit de nationalité tibétaine. Michael von Walt, c'est un juriste international. Il a fait une étude avec une centaine d'historiens, d'universitaires, de légistes. Et ils ont, à partir d'archives du monde entier, ils ont pu conclure que le Tibet est un pays qui n'a jamais été envahi et surtout pas par la Chine, comme le prétend justement le gouvernement chinois. Le Tibet n'a jamais été chinois. Le Tibet a toujours été un pays au niveau de la loi indépendant.
C'est très triste en fait. Quand on commence à s'intéresser un peu à l'histoire du Tibet, on se rend compte que son voisin, donc la Chine, qui est une des puissances économiques les plus importantes du monde, les a juste complètement écrasés, rayés de la carte. On a fait annexer cette région, hein, juste une annexation d'une région. Oui. D'une région où les Tibétains ont juste eu le choix de se soumettre ou de fuir. Et sous les yeux de la communauté internationale qui a finalement très peu réagi. Et aujourd'hui, il y a encore cette volonté de réécrire l'histoire à coup de propagande pour faire oublier ce qui s'est réellement passé. Et au Tibet, j'ai pu y aller, hein, peut-être toi aussi, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se retrouve au Tibet, ben, c'est un Tibet moderne, très loin de l'image, de la carte postale qu'on peut avoir, où la Chine et la population Han est présente absolument partout. Et dans l'esprit de tout le monde, le Tibet a toujours été une province chinoise.
Oui, oui, malheureusement, c'est ce que le Pékin essaye de faire croire au monde entier. Mais en fait, la Chine, elle est constituée à 55% de territoires occupés, de pays occupés. Les Chinois ont fait saliver les gouvernements occidentaux, mais il n'y avait vraiment pas de quoi. Parce que à force de piller ces pays que sont la Mongolie, le Turkestan oriental et le Tibet, ils ont pu s'enrichir. Ils ont pu avoir une croissance à deux chiffres. Et on se demande ce que serait la Chine, justement, sans les pillages, sans les ressources de ces différents pays. Les ressources de terres rares, puisqu'ils ont découvert un gisement de lithium assez récemment au Tibet, qui permet à Pékin de devenir, lorsque l'extraction du lithium sera faite, d'être le deuxième, après le Chili, deuxième producteur de lithium. Il y a aussi le charbon, il y a le gaz, il y a l'uranium, il y a le fer, le cuivre, l'or, l'argent. Et puis au Turkestan oriental, il y a 40% du coton que travaille l'Est de la Chine. qui provient justement du Turkestan oriental, coton travaillé par des esclaves ouïghours, parce qu'on ne leur demande pas leur avis, la Chine ne demande absolument pas l'avis des populations locales. Ils les exproprient et puis sédentarisent les nomades. Et ça, c'est assez terrible, puisque ça n'intéresse plus personne.
Et aussi, pour le Tibet, sur le plateau tibétain, c'est le réseau hydrographique. Hein. Donc, les sources du Gange, du Mékong, du Brahmapoutre, des plus grands fleuves d'Asie, du Yangtze. Hein, donc, qui contrôle l'eau, contrôle les pays, contrôle une partie de l'Asie, en tout cas. Agnès, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es sentie touchée par cette cause tibétaine? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de t'intéresser à cette partie du monde et à t'y impliquer, et aujourd'hui encore, à soutenir cette cause?
Eh bien oui, c'est vrai qu'il y a tellement d'autres causes à défendre. Ça aurait pu être la Palestine ou un autre pays. Je ne sais pas si c'est la proximité de la montagne. Oui, il y a énormément d'injustices. Mais en fait, en découvrant petit à petit la culture tibétaine, moi, je m'en suis sentie très proche. Et oui, vraiment, je suis heureuse quand je rencontre des Tibétains, je suis heureuse quand je suis avec eux, et j'ai l'impression que c'est mon peuple. Et quand je reviens du Népal, je me demande où je suis chez moi finalement. Et c'est assez perturbant. Bon, cette vie-ci, je suis née en France, mais peut-être une autre vie, j'étais née au Tibet. Tellement je me sens proche de ce peuple. Et je me suis dit un jour, bon allez, je m'engage, mais je vais le faire sérieusement et puis je vais continuer cet engagement. On a un nouvel outil de travail qui nous permet justement de reparler du Tibet. Un outil donc avec des témoignages d'exilés tibétains qui nous permet de parler du Tibet, parce que évidemment les médias en parlent de moins en moins. Il y a eu jusqu'en 2008 ou 2012 l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, où les médias en parlaient encore beaucoup, mais là il a carrément été oublié, malheureusement. Or, le problème existe toujours. Et ce qui se passe en ce moment, et depuis bientôt 10 ans maintenant, c'est que les enfants tibétains, dès l'âge de 4 ans, sont obligés d'aller dans des écoles, dans des internats coloniaux, comme on les appelle, où n'est parlé que la langue chinoise, donc le mandarin. Et ces enfants, quand ils ont l'occasion de retourner dans leur famille, parce que les internats sont souvent très éloignés de la famille, de leur village, ils ne savent plus parler tibétain. Ils se sentent étrangers dans leur propre famille. Et ça, c'est la solution finale. Et donc toute la jeunesse tibétaine apprend le mandarin, oublie le tibétain et est soumis à la propagande chinoise. Ils étudient la pensée de Xi Jinping. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free, one day, one day, one day. And if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true, Tibet will be free, Tibet will be free.
Aujourd'hui, la diaspora tibétaine est bien réelle. Hein. Beaucoup d'entre eux vivent en Inde, au Népal, en Suisse, en France, aux États-Unis aussi. Est-ce que tu as l'occasion de parler avec les Tibétains, et quelle est aujourd'hui, après 70 ans presque, plus tard, voilà, quelle est la vision des Tibétains? Est-ce que tu ressens une acceptation de la situation, de la révolte? Comment c'est perçu aujourd'hui par les Tibétains? Quels sont les échanges que tu peux avoir avec eux?
Des Tibétains, on en rencontre régulièrement à Strasbourg. On a sympathisé avec la, l'association des Tibétains de Strasbourg. Donc on les avait invités en 2020 à participer à notre manifestation le 10 mars. Le 10 mars, c'est le jour où a commencé l'insurrection des Tibétains à Lhasa en 1959, qui a donné lieu donc à la fuite du Dalai Lama et de plus de 100 000 Tibétains vers l'Inde. D'ailleurs, où réside encore le Dalai Lama. Donc, beaucoup de ces jeunes Tibétains sont nés en Inde, de parents tibétains, dans les différents camps de réfugiés. Certains encore sont nés au Tibet et ont réussi à fuir le Tibet. Jusqu'en 2008, les Tibétains ont réussi à s'enfuir du Tibet. Ils étaient 2 à 3 000 chaque année à passer les hauts cols, en plein hiver, donc à marcher la nuit, avec des passeurs, moyennant une certaine somme d'argent. Beaucoup de familles tibétaines